Vous êtes bien sur Radio France Internationale, en direct de Paris où il est 6h. 4h en temps universel et Gaëtan Plenet pour vous informer. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Entre 15 et 20 millions de personnes attendues à Téhéran pour suivre aujourd'hui le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei.
Un chiffre avancé par les autorités iraniennes. On en est au troisième des 6 jours de deuil après la mort de celui qui a été tué dans une frappe israélo-américaine au début de la guerre. L'actualité, c'est aussi un lourd bilan en Ukraine après une nuit de frappe russe, au moins 8 morts dans la région de Kiev. Un reportage à Cuba auprès d'agriculteurs qui ne s'en sortent plus face aux difficultés économiques et au blocus pétrolier américain. On sera aussi en Centrafrique pour parler de la riposte au choléra, déjà plus de 200 cas signalés. Narendra Modi attendu en Indonésie aujourd'hui, première étape de la tournée du Premier ministre indien en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. On va parler aussi du Tour de France, étape du jour perturbée par les incendies dans le sud du pays. Et puis le mondial de football et la surprise norvégienne qui élimine le Brésil. L'Angleterre, elle se qualifie difficilement en battant le Mexique. Lundi 6 juillet, nouveau jour férié en Iran, comme hier d'ailleurs. Décrété par les autorités pour permettre aux Iraniens de participer aux obsèques nationales de l'ayatollah Ali Khamenei. Ça a commencé samedi et ça va se poursuivre jusqu'à jeudi, date de l'inhumation à Majdad dans le nord-est du pays, la ville d'où était originaire celui qui aura gouverné le pays pendant 3 décennies avant d'être tué par des frappes israélo-américaines au premier jour de la guerre, c'était le 28 février dernier. Pour l'heure, son corps est encore à Téhéran et ce lundi devrait être le point culminant de la mobilisation dans la capitale avec des millions de personnes à annoncé pour suivre le cortège funèbre du guide suprême. Le récit de notre envoyé spécial à Téhéran, Sami Bourlif.
À Téhéran, il y a d'abord les funérailles officielles. Depuis samedi, elles se déroulent au Mossalla, un immense complexe religieux de hauts minarets, un gigantesque dôme surmonté d'une arche, de vastes esplanades, des salles de prière où repose le cercueil d'Ali Khamenei. Jour et nuit, au son des chants funèbres, les Iraniens, principalement des partisans de la République islamique, défilent pour lui rendre un dernier hommage. Il y a aussi les mawakib, des points de rassemblement installés à chaque coin de rue de Téhéran. Les fidèles s'y retrouvent pour se recueillir. Ce lundi est aussi celui de la Grande Marche. Plusieurs défilés convergent vers la célèbre place Azadi, la place de la liberté. Les funérailles en juin 1989 de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique et son premier guide suprême, avaient réuni entre 7 et 10 millions de personnes. 37 ans plus tard, sur fond de guerre avec Israël et les États-Unis, le pouvoir veut battre ce record. Il vise 15 à 20 millions de personnes. Objectif, réaffirmer les valeurs de la révolution islamique, montrer au monde un pays uni. Sami Bourlif, Téhéran. RFI.
À noter que le fils d'Ali Khamenei et nouvel ayatollah Mojtaba Khamenei n'a pas pour l'heure été officiellement aperçu lors de ces cérémonies. D'ailleurs, depuis le début de la guerre, il a été blessé dans ces mêmes bombardements qui ont tué son père. Emmanuel Macron va se rendre en Syrie, c'est en tout cas ce qu'annonce Damas, sans donner de date précise. Mais si ça se confirme, ce serait la première visite d'un chef d'État d'une puissance occidentale depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024, remplacé depuis par Ahmad al-Sharaa, qu'Emmanuel Macron avait d'ailleurs reçu à l'Elysée quelques mois plus tard. La nuit a été meurtrière en Ukraine après d'intenses bombardements russes dans la région de Kiev, au moins 8 morts, dont 7 dans la capitale. L'Ukraine, elle, a à nouveau attaqué des infrastructures énergétiques dans la région de Crimée, annexée par Moscou. La ville de Sébastopol se retrouve privée d'électricité alors que la péninsule connaissait déjà une pénurie de carburant. Le carburant qui manque aussi à Cuba depuis le mois de janvier, l'île se voit imposer un blocus pétrolier par les États-Unis et les conséquences économiques sont de plus en plus évidentes. Les denrées alimentaires qui dans la capitale sont majoritairement importées sont de plus en plus chères. Alors le répit viendra peut-être du programme de réforme annoncé le 18 juin et qui prévoit notamment d'ouvrir de nombreux secteurs aux capitaux privés. L'agriculture notamment, et il y a urgence car dans les champs d'Artemisa, une province connue pour être le grenier agricole de la Havane, et bien les travailleurs sont formels. À l'heure actuelle, ils travaillent tout simplement pour rien. Reportage de Margot Davier.
La Finca Marchetti, du nom de son propriétaire, abrite 25 hectares dédiés à la culture de la malanga en tubercule et du manioc. Mais Marchetti n'a plus les moyens de semer l'intégralité de son domaine.
La semaine dernière, nous avons payé le litre de pétrole 2200 pesos, presque 5 $, et cela n'est pas rentable. Nous devons courir pour terminer ce que nous faisons.
Il lui faut 80 litres d'essence pour défricher 2,5 hectares. Les agriculteurs travaillent à perte. Le litre de pétrole, qui se paye en dollars, coûte plus cher que la vente de récolte.
Nous perdons de l'argent parce que nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Et puis vient le moment où les ressources manquent.
D'autant que les acheteurs se font rares.
Les camions en provenance d'autres provinces, d'autres endroits, ne viennent plus parce qu'il n'y a pas de carburant. Imaginez-vous, un camion en direction de Matanzas a besoin de 100 litres de carburant, soit 200 000 pesos, environ 330 $. Alors ce montant se répercute sur les produits et augmente les prix. Donc, quand la production arrive quelque part, les gens ne peuvent même pas acheter parce qu'ils n'en ont tout simplement pas les moyens. L'agriculture vit un moment très très critique.
Sans économie ni ressources, avec plus de 10 travailleurs journaliers à charge, Marchetti peine à s'en sortir.
Ma solution, c'est d'arrêter parce que je suis épuisé.
Mais les perspectives de reconversion restent limitées. Margot Davy, Artemisas, RFI.
De nouveaux combats hier dans le nord du Mali, alors que des attaques coordonnées entre les djihadistes du Jinim, affiliés à Al-Qaïda, et les rebelles indépendantistes du Front de Libération de la Zawad ont débuté la veille dans plusieurs localités, celle d'Anéfis notamment, où des hélicoptères de l'armée malienne ont essuyé des tirs hier. Là-bas, les troupes régulières ont été obligées de se retrancher dans le camp militaire de la ville avec les paramilitaires russes. À Gao, les assaillants ont tendu une embuscade à un imposant convoi terrestre. Il y a eu de nombreux blessés. Certains véhicules ont été incendiés, d'autres abandonnés. RFI, les 5h06 à Bangui, la Centrafrique, où la riposte contre le choléra se poursuit une dizaine de jours après la confirmation d'un premier cas. Depuis, il y en a eu plus de 200, dont une vingtaine de décès selon le ministère de la Santé. C'est surtout dans les districts sanitaires de Bimbo et Mbaiki, dans le sud-ouest du pays, que les cas sont les plus nombreux. Du côté des autorités, on se veut quand même rassurant. La situation est sous contrôle, dit-on, mais le manque d'infrastructures sanitaires dans plusieurs localités fait craindre quand même une poursuite de la transmission. Reportage dans le village de Bokassi, Rolf Steve Domielle.
À bord de cette immense baleinière qui s'apprête à quitter le rivage, une trentaine de passagers prennent place. Autour d'eux s'entassent plusieurs tonnes de marchandises. Des animaux domestiques accompagnent également cette traversée. Paterne est le conducteur expérimenté de cette baleinière.
Nous transportons au maximum 50 passagers. La route est totalement impraticable. Il n'y a que la voie fluviale qui desserve la région. Dans cette baleinière, il y a des personnes qui ont les symptômes du choléra. Leur état est critique. Il faut absolument les amener à Bangui pour les soigner.
Au rythme des chants, un groupe de jeunes volontaires parcourt les quartiers riverains pour sensibiliser la population. Julia déplore l'absence de forage dans le village de Bokassi.
Nous buvons l'eau de la rivière. Il n'y a pas un seul forage ici. Nous sommes donc exposés à cette épidémie. Nous nous sentons abandonnés.
Alors que le nombre de malades augmente dans cette localité, le ministère de la Santé recommande aux habitants d'être vigilants. Docteur Germain Piamalé, gestionnaire de la riposte contre le choléra.
Nous enregistrons 240 cas et 24 décès en communauté. Mais dans les structures de santé, nous avons enregistré aucun cas de décès. Nous conseillons à la population, à la communauté, d'amener les malades à l'hôpital.
Pour limiter la propagation de la maladie, le dépistage et la prise en charge dans les hôpitaux sont gratuits sur l'ensemble du territoire. Rolf Steve Domerle, Bangui, RFI.
Narendra Modi attendu en Indonésie aujourd'hui. Première étape de la tournée de 6 jours du Premier ministre indien en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Abdoulaye Rally, New Delhi, veut consolider ses partenariats économiques et sécuritaires dans un contexte de rivalité croissante avec la Chine.
Au-delà des accords qui pourraient être signés, cette tournée de Narendra Modi illustre une priorité de la diplomatie indienne, transformer les convergences politiques en partenariats concrets. Il s'agit donc de sécuriser les routes maritimes, d'accéder aux minerais critiques et d'attirer les investissements nécessaires pour la montée en gamme industrielle de l'Inde. L'Indonésie est la première étape, les discussions porteront notamment sur la sécurité maritime. L'Indonésie est un partenaire clé pour sécuriser le détroit de Malacca, qui est le passage obligé d'une grande partie du commerce et des approvisionnements énergétiques de l'Inde. En Australie, l'accent sera mis sur la défense, les investissements et les minerais critiques. Enfin, la Nouvelle-Zélande accueillera la première visite d'un premier ministre indien depuis 40 ans, avec l'ambition de donner un nouvel élan aux relations économiques entre les deux pays. Trois étapes qui s'inscrivent dans une stratégie plus large, renforcer la place de New Delhi dans l'Indo-Pacifique alors que la Chine y étend son influence. Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
L'incendie est toujours en cours dans le sud-ouest de la France, près du Mont Canigou. 4500 hectares parcourus et deux personnes grièvement blessées. La chaleur qui est en train de gagner le pays complique évidemment le travail des pompiers. Les habitants de 26 communes des Pyrénées-Orientales ont été appelés à évacuer. Et cet incendie, eh bien, il perturbe le Tour de France cycliste, alors que l'étape du jour, la troisième, a lieu entre Granollers en Espagne et Les Angles, une station de ski pyrénéenne côté français, c'est-à-dire pas très loin des flammes. Le parcours initial de l'étape est maintenu, oui, mais le dispositif est allégé quand même par les organisateurs. De nombreux véhicules et suiveurs ainsi ne rejoindront pas l'arrivée. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, s'en explique.
Au vu des circonstances exceptionnelles et du dramatique incendie qui est en train de dévorer une partie des Pyrénées-Orientales, nous avons décidé que la caravane publicitaire ne serait pas sur la partie française de la troisième étape du Tour, à savoir sur les 40 derniers kilomètres, que les coureurs passeraient, mais avec le minimum de véhicules d'organisation nécessaires pour le Tour de France et le bon déroulement de la course. Et on invite le public à ne pas venir aux abords de la route de l'étape, à ne pas venir non plus sur le site d'arrivée. Je pense d'abord, comme le préfet, aux gens qui souffrent en ce moment, parce que c'est ça le plus important, c'est la sauvegarde des populations et des paysages. Et puis je pense aussi évidemment aux gens des Angles qui se préparaient à accueillir le Tour depuis un an, et puis aux fans du Tour de France qui avaient envie de profiter d'une belle étape. Mais je crois aussi qu'ils comprendront, et je crois aussi qu'ils seront suffisamment civiques pour protéger aussi les territoires.
Des propos recueillis par Olivier Pron. Au Mexique, ce sont les orages, et les risques d'orages plutôt, qui ont perturbé le mondial masculin de football. Alors le match entre l'équipe nationale et l'Angleterre a dû être retardé d'une heure. Il a finalement eu lieu et ce sont les Anglais qui se sont qualifiés pour l'écart en battant le Mexique, donc 3-2. La Norvège a éliminé le Brésil. Prochain match, Portugal-Espagne, et puis aussi États-Unis-Belgique. Et l'Américain Folarin Balogun sera bien dans l'effectif américain, lui qui avait pourtant écopé d'un carton rouge au match précédent, le privant notamment de participation. Sauf que ce carton, eh bien, la FIFA l'a suspendu après un coup de fil du président américain Donald Trump. Balogun va pouvoir jouer. Les Belges sont en colère, notamment Rudy Garcia, l'entraîneur, qui ne manque pas d'ironie.
Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Je pense que beaucoup de choses est dedans. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. Voilà. Après, moi je suis coach, je vais me concentrer sur mon équipe, sur le match. Peu importe le 11 de départ des USA. Voilà, ce qui compte pour moi, c'est le terrain, c'est mon équipe, et qu'on gagne et qu'on arrive en quart de finale.
Rudy Garcia, l'entraîneur de la Belgique, qui affrontera donc Folarin Balogun et les Américains en 8e de finale. Ce sera à minuit en temps universel la nuit prochaine.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on sera à Ankara, car c'est là-bas qu'aura lieu demain et après-demain le sommet de l'OTAN. Et on va tenter de comprendre ce que l'hôte turc pourrait essayer d'en tirer. Blanche Sabag sera elle notre invitée culture ce matin. C'est à elle que l'on doit la BD La Cité des Dames de l'héroïque fantasy féministe. Et puis des produits cosmétiques, ça se choisit, et ça se choisit bien en plus. Ce sera notre conseil santé du jour. Mais d'abord, on part en Moldavie pour parler de cette véritable épidémie, les arnaques téléphoniques. Plus de 8 millions d'euros de préjudice depuis le début de l'année, avec parfois 50 000 euros de pertes pour une seule et même victime. Parmi les principales sources des escrocs, parmi les principales victimes de ces escrocs, les personnes âgées, souvent moins familières, c'est vrai, avec les nouvelles technologies, plus propices à se faire berner. Et selon les autorités moldaves, eh bien, ces opérations pourraient être orchestrées, au moins en partie, depuis la Russie, pour miner la confiance de la population moldave dans les institutions du pays. Reportage à Chișinău de Maria Gert Niculescu.
Aux abords du marché central de Chișinău, l'officier de police Viorica Pascar et son équipe avertissent la population face aux escroqueries téléphoniques qui ont explosé ces derniers mois en Moldavie.
Cet emplacement a été choisi précisément parce qu'il y a chaque jour un flux très important de personnes, y compris des personnes âgées qui tombent souvent dans le piège des fraudeurs. Les escrocs tentent d'obtenir des données personnelles et de l'argent auprès des citoyens par le biais d'appels téléphoniques, de messages ou encore des réseaux sociaux.
Beaucoup de passants disent avoir fait l'objet de tentatives d'appels frauduleux, comme cette retraitée qui a senti le piège.
Ça m'est arrivé, quelqu'un m'a dit qu'il était commissaire de police, oui, et qu'on était venu à la banque pour faire un retrait sur mon compte. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent sur le compte et il a voulu savoir où je le gardais.
Entre 2023 et 2024.
To make your match. reckless with a capital R.
Tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
Bienvenue à qui a porté plainte.
Et sinon changer, pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure et sur www.principactif.net.
Car sans cruel, vente de l'art conceptuel, né dans des maquettes de l'Alpe d'Huez. Tu es, tu restes, tu règnes, ok. Tu cours, bléchine, tu crèves, ok. Énarque, aimable, t'obèse, ok. Tu votes, super, tu perds, ok. Main sale, beau drap, arme slave, sauna, électorale, sauna, cotra. Préguerre sauvage, mon rap connard, c'est mon âme ou rien, c'est mon plat polaise. D'un autre monde que ces bitches de l'autre rive, d'un autre compte que ces fils de Rothschild. Bouton de manchette, les notes taperont fort dans leur carotide.
Tu
suis face à des machettes, des gâchettes. Des trajets dans le monde du Hugo Chavez. Des pays, des armes, des gens cachettes. Des concerts, on s'achète des paquets de cigarettes. Gadem, parlementaire avec ma paye. Salaire coupé en trois mecs. Mais sa mère et sa marraine. Tu comprends pourquoi après on s'arrache en Cayenne. Ailleurs, adresse postale de Touareg. Je te fuck poétiquement comme Kassem. Le rat c'est mon pote, pas ma sassem. C'est mon pote, pas ma chienne. Si tu me sors de la pape, lui sur dans le visor. Eux ils n'ont le sale ouais. C'est plus que de la vaille. Sur le cul une caresse. Putain ce monde c'est une galère. Faut bien que j'occupe mon vase à des machettes, des gâchettes. Des trajets dans le monde du Hugo Chavez. Des pays, des armes, des gens cachettes. Des cancers, on s'achète des paquets de cigarettes. Je suis face à des machettes, des gâchettes. Des trajets dans le monde du Hugo Chavez. Des pays, des armes, des gens cachettes. Des cancers, on s'achète des paquets de cigarettes.
Les seules fois où je vote c'est pour une deuxième tournée. Autant de couplets que d'argent détourné. Les impôts, mes impôts, leurs gros lots. Les prolos nourrissent les caïmans de ces crocos. Débattérés, déblatérés, des députés, des bactéries. Dégage d'ici, l'égalité, c'est dans le delta de ton péril.